Je reproduisais ce que j'avais vécu, c'est-à-dire lancer les assiettes contre les murs, les casseroles sur les fourneaux, crier sur tout le monde. Alors, je rentrais chez moi le soir, j'avais un peu honte, j'étais fatigué de m'être énervé. Et le lendemain matin, je n'osais pas revenir au boulot, ou je revenais avec la boule au ventre en me disant « mince, qu'est-ce que j'ai fait hier soir ?» Donc, il fallait recommencer à crier encore plus fort pour montrer qu'on était là. Et au bout d'un moment, je me suis dit « mais je ne vais pas tenir, quoi ».
Ils sont très peu, les chefs qui sortent de leur cuisine et racontent à visage découvert les violences qu'ils ont subies et celles qu'ils ont commises. Le harcèlement moral, sexuel, les insultes, les coups. Dans les palaces, les établissements gastronomiques et plus largement dans le secteur de la restauration, exigence reste synonyme de violence et de silence.
Tous les chefs qui aujourd'hui ont entre 50 et 70 ans, qui ont entre 1 et 3 étoiles, c'est majoritaire. Le traitement du personnel, il n'est pas à la hauteur. Ils ont tous des plus ou moins des casseroles au cul. Ils serrent tous les fesses pour pas que ça tombe. C'est pas bienveillant en tout cas ce qui se passe.
Car les voix des victimes, de plus en plus, se font entendre. Avec une première condamnation, 8 ans de prison l'an dernier aux assises pour un chef jugé pour viol et harcèlement sexuel. Des amendes infligées à un pâtissier et son commis pour avoir humilié un stagiaire. Et plus de 200 témoignages publiés sur le compte Instagram « Je dis non chef ». Dans un pays où 94% des responsables de cuisine sont des hommes, l'une des clés du changement, c'est l'arrivée massive de femmes dans les écoles de cuisine. Elles représentent désormais 50% des effectifs, mais au-delà d'une réflexion sur les comportements, plusieurs restaurants réfléchissent aussi à organiser différemment le travail, avec moins de hiérarchie, moins de donneurs d'ordre et un fonctionnement sur le modèle des coopératives autogérées.
On est tous des humains, il peut y avoir des montées en température, il peut y avoir des erreurs de communication, il y en a tout le temps dans toutes les cuisines. Mais la violence est souvent une compensation de l'organisation, quoi. Je vais faire compenser mon manque d'organisation personnelle par un subordonné ou une subordonnée. Enfin voilà, en fait, c'est juste d'apprendre que la violence n'est pas OK et de trouver d'autres solutions.
Concilier la bienveillance et la rigueur, une équation compliquée dans l'univers des cuisines françaises dont l'organisation et le vocabulaire restent militaires. C'est dans un restaurant triplement étoilé avec la brigade de Pierre Gagnère, à l'heure du coup de feu, que commence ce magazine. Sévices compris, comment se débarrasser des violences en cuisine? C'est un reportage de Faustine Calmel, prise de son Frédéric Quéroux et Gilles Gallinaro.
Interception, le magazine de reportage de la rédaction de France Inter.
Alors aujourd'hui, Hugo, tu seras en Alar, Mathéo, Tortue, Leland 5, je serai en Reste de la Salle avec GT, Valentin, tu es en Nash. Accueil plus toilette, Étienne, Lepin, Clément et François, tu t'occuperas du chef. Ensuite, on continue avec Tortue, ainsi couvert à 12h30, on passait de 5 à 6. Tortue 4, 3 couverts à 13h, table près de fenêtre ou contre un mur. 2 couverts le long de à 12h30, donc c'est une journaliste de la chaîne France 2. Donc voilà, donc menu de 400€ plus boisson incluse. Voilà.
Vous pouvez nous dire ce que vous faites ?
J'ai pris les coques, voilà. C'est pour une entrée à la carte, voilà, pour nos collègues au chaud.
Donc ici, vous préparez tout ce qui est entrée...
Amuse-bouche, petit feuilleté. Et voilà, on aide aussi pour le show. On trie les coquillages, les tourteaux ici, et puis voilà.
Vous demandez votre prénom ?
Calvin. Moi, je suis chef de partie aux Amuse-bouche. Il y a le chef qui est au-dessus de nous, le chef Thierry, monsieur avec les lunettes là-bas. Et après, on a Kevin qui est un apprenti. Puis il nous aide aussi quand même beaucoup sur toutes les petites tâches quand même, qui sont compliquées.
Oui, on vous voit en train de éplucher les raisins.
Ouais.
Grain par grain.
La peau, c'est vraiment pas agréable. On les épluche, après on les épépine, et voilà.
C'est un 3 étoiles, j'imagine qu'on travaille ici avec beaucoup de pression. Comment vous gérez ça?
C'est une belle maison, c'est normal qu'il y ait de la pression, mais bon, c'est notre passion, donc on l'accepte bien.
On vous laisse bosser.
Merci.
Eni, t'as des chutes de feuilletage ou pas? Bravo, quelqu'un?
On est vraiment dans des cuisines parisiennes, c'est très exigu, il y a de l'argenterie partout, ça travaille dans tous les sens.
Ça, c'est pour personnel, ça.
milieu assez masculin aussi.
Je m'appelle Thierry Méchineau. Ça fait 24 ans que je suis avec M. Gagnard, au sein avec le chef. Donc je suis chef de cuisine. Là, je suis en train d'habiller des ailerons de volaille. On va lancer un pâté de Noël et on va mettre des ailerons de volaille dedans. Là, je les coupe et je vais les désosser. Ils vont être farcis derrière.
Quelle est l'organisation de cette cuisine où vous êtes chef? Comment est-ce que ça fonctionne? Cette brigade, on dit brigade. Hein.
C'est ça, donc ça marche par section. Après, donc, chaque section a un chef de partie, des demi-chefs, des commis.
Plus hiérarchisé.
C'est ça, oui, exactement. On est bien obligé pour que tout le monde ait sa place et qu'on fasse toutes ses tâches en fonction, quoi. Ils ont à faire, quoi.
Vous faites ici une cuisine de haute volée ou de haute gastronomie, en tout cas. Il y a forcément, j'imagine, une certaine pression. Comment est-ce que voilà, ça, c'est géré dans les cuisines et comment on fait pour rester dans la bienveillance que prône justement Pierre Gagnard?
Avec l'âge que j'ai maintenant, je ne suis pas plus vieux, mais je veux dire que j'ai pris sur moi et je prends plus sur moi que je faisais quelques années et ça se passe bien. Et après, ça ne sert à rien de l'exposer partout. Il faut juste leur montrer les choses et puis leur expliquer que, bon, que ça va bien se faire. La pression, on l'a. On fait notre travail et après, ça se passe bien, quoi, sans se poser trop de questions, en fait, quoi.
Laitue farcie, le tourteau aux petits oignons glacés, pâte à vent de lapin de cabane confite à la citronnelle avec ses quartiers d'oignons boulangères et sa crème mousseuse de homard, merlu rôti en crépinette avec sa salade de pourpier à l'ail séché et une émulsion d'huile d'olive.
France Inter, haché. 1993.
La liste est longue des spécialités du restaurant de Pierre Gagnard. Ce chef de 42 ans vient d'obtenir sa 3e étoile au guide Michelin. Il rejoint ainsi 19 autres restaurateurs dans ce club très fermé des meilleurs cuisiniers de France. Son talent est donc récompensé aujourd'hui et il apprécie.
Pierre Gagnard, cuisinier.
On est allé dans votre cuisine. Est-ce que vous pouvez nous en expliquer un petit peu l'organisation? C'est quelque chose de très hiérarchique?
Oui, c'est hiérarchisé pour que ça marche. Il faut que chaque pièce du puzzle soit compatible avec l'autre. Compatible en termes de compétences, et puis une mentalité, une bonne mentalité, une belle mentalité. Si vous avez des gens qui font crâler, qui font c'est dur, pas jouable, quoi. Il faut des gens qui croient ce qu'ils font, quoi, qui s'engagent.
Comment est-ce que vous réussissez à obtenir ça et à en être le garant?
En étant proche des équipes, en montrant une exigence sans faille quant au résultat, je fais en sorte de rien laisser passer dans ce que je vois, et puis en étant le plus attentif à ce qu'ils sont. Voilà, parce que chez nous, on peut pas tricher, quoi. On est tout le jour au pied du mur. Voilà. Donc les tricheurs, on les voit vite. Hein.
Cette exigence, pendant longtemps et dans de nombreuses cuisines, elle s'est aussi obtenue parfois en criant, parfois avec des gestes violents, difficiles.
Oui.
Est-ce que ça peut se faire dans des cuisines, malgré tout, sans violence externe?
Attendez, la question ne doit même pas être posée.
Ce n'est pas le cas partout, c'est pour ça que je
vous
la pose.
Moi, je ne sais pas. Mais... moi, dans tous les cas, non, chez nous, non. Il n'y a jamais eu aucun problème, non, jamais. La cuisine, c'est de l'amour, de l'art et de la technique, c'est de l'amour. Donc, le respecter les gens, les vous voyez. Et puis, toujours se dire, quand on est dans une position d'autorité, ce que je viens de dire, est-ce que j'accepterais qu'on me le dise? Comment je le prendrais, moi? Pour moi, c'est une espèce d'obsession, dire « Hop, attention, arrête, là. Ce que tu risques de faire, t'accepterais pas qu'on te dise ça. » Voilà. Et si on arrive à raisonner comme ça tout le temps, on arrive à une forme d'écoute, une forme d'attention et de respect de l'autre qui déjà règle beaucoup de problèmes. Et moi, mon comportement, je dis pas qu'il est exemplaire. Enfin, je crois qu'au fil du temps... si je me suis à peu près créé une petite réputation, c'est justifié. Il y a une réalité, quoi, qui est celle de l'écoute, de l'amour bienveillance, qui est aujourd'hui un peu tarte à la crème. Mais enfin, bon, on va l'employer. Voilà. Mais il n'y a jamais eu de violence. Il n'y a jamais eu de ma part de mots déplacés. Jamais. Parce que, ayant souffert de ça, pour moi, c'était inacceptable.
Vous avez vu les choses changer? Ça fait 50 ans que vous êtes derrière des fourneaux.
Oui. Ah ben oui, je les ai vus changer. Bien sûr, je les ai vus changer. J'ai vu beaucoup de conneries. Après, c'est un métier où il y a du stress. On n'est pas chez les bisounours. La parole est dure. Donc, il y a des gens plus adaptés à ça. Moi, aujourd'hui, je vous parle, bon, j'ai acquis des mots, j'ai acquis un peu de recul. Mais Vous seriez venu dans ma cuisine il y a 10 ou 15 ans, j'aurais bien été incapable, alors qu'il est, de passer une heure avec vous. Parce que j'étais dans ma cuisine et parce que j'étais au centre du jeu.
Allez, on se met en place. Vérifiez vos rangs, s'il vous plaît. Bon service. Tac, tac. À toi. Ça, c'est l'équipe. Allez, go. Total jus de fruits. Pomme poire.
Les choses changent, mais pas partout. Dans beaucoup de cuisines, la violence reste la règle, souvent à l'encontre des plus faibles et des derniers arrivés. Pour alerter les jeunes, le lycée hôtelier du Touquet, dans le Pas-de-Calais, organise pour la première fois une conférence sur les violences en cuisine.
Oui, monsieur Gesselin, j'ai vos personnes qui sont arrivées.
Menée par l'association Bondir et à laquelle nous assistons cet après-midi. Sur les 400 élèves, seuls quelques jeunes ont accepté de témoigner de ce qu'ils ont subi. Mais dans les classes les plus concernées, spécialité cuisine, personne n'a souhaité nous parler. Signe de l'omerta qui règne encore.
Bonjour à tous. On est très contentes d'être ici. On vous explique un petit peu le principe de cette intervention. Je m'appelle Lorraine Barjou et il y a Justine Pruvot qui est ici.
Bonjour.
Nous sommes bénévoles dans une association que nous avons créée il y a environ 2 ans qui s'appelle Bondir. Donc aujourd'hui, on est sortis de notre cuisine, on a pris du temps pour venir vous parler et vous parler d'un sujet qui nous tient à cœur, qui est les violences que l'on peut rencontrer dans les cuisines. Et on va essayer de vous donner quelques clés pour pouvoir vous en sortir lors de vos premières expériences professionnelles. Voilà.
Dans cette grande salle vitrée, plus d'une centaine d'élèves entre 16 et 20 ans, les deux intervenantes distribuent de petits bouts de papier pour que chacun raconte ses expériences de stage.
L'idée, c'est qu'on va en lire quelques-unes et on va répondre ensemble à ce qui a été écrit. Ah, s'il vous plaît.
Mon premier stage s'est bien passé, mais quand j'ai passé en cuisine... Je sonnais la petite cloche et un jour le chef m'a dit d'arrêter, que sinon la prochaine fois il me faisait passer au-dessus du poste. Et il l'a fait et m'a donné une fessée. Est-ce normal ? Bah non. Si ça s'est vraiment passé, non, ce n'est pas normal. Puisqu'il y a du coup agression physique. S'il y a eu des témoins, ils peuvent peut-être aussi vous accompagner pour aller porter plainte parce que clairement c'est une agression. On est disponible aussi là à la fin si vous voulez pour en discuter, la personne qui a écrit ça.
Voilà. Alors, je vais lire le premier papier que je viens d'ouvrir.
Une collègue de stage m'a raconté qu'un chef lui avait dit de se suicider, car elle avait loupé une préparation.
Pendant le nettoyage, j'étais sur le sol, et on m'a dit que j'étais dans la bonne position pour une fellation.
On m'a touché les hanches pour passer derrière moi tout en me collant.
J'ai renversé un verre sur ma chemise blanche. On m'a dit « Ne te change pas surtout, on adore voir ça ».
Un chef au lycée fait des actions déplacées envers les élèves. Vous savez, nous, on n'est pas forcément accueillis avec les bras ouverts pour les chefs ici. C'est plutôt d'autres enseignants qui viennent nous chercher que vos chefs de cuisine, parce qu'ils font partie du système, ces chefs. Donc la première chose là-dedans, c'est s'il y a un chef qui fait des actes déplacés envers les élèves, vous devez... informer les supérieurs. Donc à l'école, je ne sais pas exactement qui c'est, mais par exemple, le directeur adjoint avec qui on a beaucoup parlé, je pense que vous pouvez aller le voir. Vous pouvez aussi aller voir la personne au CDI, l'infirmière. C'est son travail aussi de récolter ce genre d'informations. Et c'est à vous de faire changer ça. C'est pas facile, ça demande du courage. Et vous savez, quand on remonte l'information et qu'on demande à être respecté, bah, souvent on est mis au placard. Souvent, après, clairement, on en chie pendant 1 ou 2 mois parce que on ne veut pas de vous dans l'entreprise. Ici, vous êtes dans une école où il y a un corps professoral qui est là pour vous et qui, en plus, vient nous chercher. Il y a certains professeurs qui viennent nous chercher pour vous former sur ces sujets-là. Donc, informez rapidement les personnes pour dénoncer tout acte qui ne sont pas normaux. En tout cas, nous, on est contentes d'être là et de vous parler. Et on voulait vous dire que la restauration, c'était un beau métier, qu'il fallait être persévérant et que, en tout cas, c'est vous qui pouvez le changer aujourd'hui.
Merci à tous.
Alors, je m'appelle Lorraine Barjou et je suis chef cuisinière.
Et vous intervenez aujourd'hui au Touquet dans le cadre d'une association qui s'appelle Bondir. Comment et pourquoi elle a été créée ?
Au moment du confinement, où on a eu le temps tout d'un coup de se poser, nous les chefs, enfin les chefs, les cuisiniers, on a fait un constat qu'on avait un peu tous vécu des situations désagréables. On a eu envie d'aller voir la jeune classe, celle qui arrive, de leur donner des clés et de les sensibiliser sur le sujet pour qu'ils soient beaucoup plus armés et qu'ils puissent changer un petit peu ce monde désagréable.
Vous avez démarché les établissements scolaires et à ce moment-là, comment vous avez été reçus ?
On n'a pas tout le temps été très bien reçus parce que une bande de femmes qui arrivent dans un établissement pour expliquer qu'il y a des systèmes de violence en cuisine, ben on n'est pas accueillis à bras ouverts parce que la cuisine, elle est tenue même au sein de l'école par des chefs qui sont là depuis beaucoup d'années, qui appartiennent à ce système-là. Donc il a fallu un peu jouer des coudes. Et en fait, c'est souvent des professeurs qui venaient pas de la filière hôtelière, mais professeurs de maths, professeurs de physique ou de français, qui sont venus nous chercher et qui, eux, ont pris le sujet à bras-le-corps.
Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez plus de demandes ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train de se décoincer, justement, dans l'enseignement des métiers de l'hôtellerie ?
Je dirais que oui, on a plus de demandes, parce que on communique aussi beaucoup sur ce qu'on fait. Depuis MeToo, ces sujets-là sont vachement plus en vogue et le public, le jeune public est assez aguerri. Donc du coup, on a beaucoup de demandes. On essaye d'y répondre, mais c'est pas toujours facile. Les écoles commencent à se sentir concernées, en fait, parce que les élèves qui vont envoyer dans des entreprises doivent être formés pour pouvoir s'en sortir. Ouais.
Vous dites MeToo. Est-ce que le MeToo de la cuisine, il a déjà eu lieu ou il faut s'attendre à ce que la chose sorte ou explose plus tard ?
Alors clairement, non, il n'a pas eu lieu. Moi-même, j'ai vécu des situations assez désagréables. Je pense qu'il faut aussi démystifier toute cette starification des chefs, parce que tous les chefs qui, aujourd'hui, ont entre 50 et 70 ans, qui ont entre 1 et 3 étoiles, c'est majoritaire. Le traitement du personnel, il n'est pas à la hauteur. Ils ont tous des plus ou moins des casseroles au cul. Ils serrent tous les fesses pour pas que ça tombe. C'est pas bienveillant, en tout cas, ce qui se passe.
Ça veut dire que ça prendra du temps pour que, vraiment, il y ait une ambiance apaisée dans la majorité des cuisines ?
Ça va prendre du temps. Je pense qu'il y a aussi toute une partie de chefs qui va partir à la retraite et que les écoles de cuisine, elles sont quand même pleines d'étudiants. Donc, il faut leur faire la place. Et j'espère que dans 10 ans, il y aura eu du changement. Il y a eu quand même quelques sujets sur le MeToo de la cuisine, avec des dénonciations de comportements de harcèlement sexuel, par exemple. Mais ça n'a pas reçu le public n'était pas au rendez-vous, en fait. Il n'est pas prêt. Enfin, je pense qu'on mystifie complètement le chef, en fait, qu'il est derrière ses fourneaux, il est autoritaire, mais en fait, c'est un mec quand même super sympa, il fait des blagues, et tout le monde me dit, mais t'es allé manger chez un tel, il est génial. Mais en fait, passer la porte de la cuisine, c'est le calvaire, quoi. Et les gens, ils veulent peut-être pas aussi entendre ça, il y a quelque chose peut-être culturel derrière ça.
Par contre, dès le début, comment ça se passe ?
On va vous poser des questions. Et vous voulez qu'on donne votre prénom ou pas ?
Non.
D'accord. D'accord. Ok. Eh bien, est-ce que vous pouvez nous raconter vos expériences, votre expérience de stage ?
Oui, tout à fait. Donc, c'était en 2020. Je venais d'avoir 18 ans. C'était ma première saison. Et donc, je commence le travail. Et au fur et à mesure, donc, le chef qui est propriétaire de l'établissement a commencé à avoir un comportement assez déplacé, c'est-à-dire des insultes. Au fur et à mesure des jours, il me reprochait de pas faire assez d'heures. Quand je lui posais des questions, il me disait, toi tu es serveuse, tu fermes ta gueule, tu fais la merde et t'as rien à dire. Ça tout le temps, des remarques tout le temps désobligeantes et des insultes à longueur de journée.
Comment vous avez pris ça ? Est-ce que ça vous a atteint ?
Oui, vraiment, j'avais la boule au ventre, j'ai fait des crises d'angoisse sur mon lieu de travail. Ce qui m'a obligée à prendre des traitements médicamenteux qui m'ont du coup un peu ramollie, qui m'ont affaiblie. J'osais plus du tout le regarder dans les yeux, ni lui dire bonjour. J'étais mal à l'aise. Enfin, j'étais la seule au début à subir ça. Au final, quand je suis allée le voir, je suis entrée dans son jeu. Je lui ai dit, vous avez raison, la restauration, c'est pas fait pour moi, je vais démissionner. Et donc, il a retourné sa veste, il a dit « Non, mais tu sais, t'es celle qui travaille le mieux dans l'entreprise, alors reste là et ça va aller, etc. » Sauf que c'est pas allé mieux et par la suite, j'ai appris qu'il avait harcelé sexuellement une autre collègue.
Vous aviez alors tout juste 18 ans. Aujourd'hui, vous en avez 20. Quel regard vous portez sur cette expérience-là ?
Sur le coup, je me suis beaucoup remise en question. J'ai hésité à quand même aller au lycée hôtelier. J'étais un petit peu dégoûtée, beaucoup d'appréhension sur la suite des événements qui allaient m'attendre, sur les expériences professionnelles. Ça m'a quand même impactée dans le sens où maintenant j'appréhende beaucoup les expériences, c'est-à-dire les extras ou quoi dans les relations cuisine-salle. J'ai toujours peur que ça recommence, j'ai pas du tout confiance en moi. Dans mon souvenir, c'était assez violent et j'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre. Mais bon, aujourd'hui, on en fait de force comme on peut, quoi.
Bonjour, je m'appelle Justine Pruvot, j'ai 35 ans. Je suis chef itinérante ou libre ou ouais, chef en liberté, c'est pas mal. Moi, ce qui m'est arrivé, c'est basiquement du harcèlement moral. Où des personnes de l'équipe, de la brigade, et notamment le chef exécutif, me demandaient régulièrement quelle était ma position préférée, est-ce que j'avais déjà couché avec des noirs, pourquoi je portais de l'eyeliner, parce que j'allais me faire troncher par mon mec. Je suis horrible avec les mots, mais c'est exactement comme ça que je les ai reçus. Et surtout, bah, j'avais 30 ans et j'ai osé rien dire, parce que j'avais peur qu'on me mette de côté et qu'on m'apprenne pas en fait les choses. Donc j'ai rien dit. Je pense qu'il y a une omerta qui se fissure. Entre nous, on sait quelles sont les cuisines où il faut aller, où il faut pas aller.
Et pourquoi ça on le dénonce pas ? Pourquoi ça on le dit pas ?
Mais c'est ça qui est compliqué. C'est difficile de pointer du doigt et de...
Ça se fait dans d'autres professions, d'autres milieux. C'est ce qu'on appelle le name and shame. Je nomme et je pointe du doigt. Est-ce que c'est ça qui changerait vraiment les choses dans la cuisine ?
Je sais pas. Moi, je pense que j'ai pas encore le courage de faire le pas et de namer et de shamer.
T'as déjà bossé dans une cuisine, non ?
Oui.
Ouais ?
Oui.
Ouais, c'est pour ça que t'es là, parce que t'as déjà bossé,
oui.
Non ? Oui, quoi ?
Oui, chef.
Oui, chef. Donc, on y lave quoi dans cet évier ?
Les aliments.
On y lave quoi ?
Les aliments.
Et donc, qu'est-ce qu'on y fait pas ?
Se laver les mains.
Se laver quoi ?
Les mains.
Se laver les mains. Ouais, c'est pas vrai. Putain de bras cassés. Toi qui utilises le mauvais évier, et toi ? Toi qui branle rien là, à quoi tu joues toi ?
Nous, journalistes de France Inter.
France Inter ?
Il va falloir parler avec un micro.
Mon Dieu.
Mais vous avez l'habitude.
Oui.
Bon, je vous laisse.
Donc, bienvenue.
Merci, bonjour.
Donc, ravie de faire votre connaissance. Bienvenue dans mon antre.
Alors, je me présente, je suis Nathalie Kibel-Delahaye, je suis enseignante au lycée hôtelier du Touquet depuis 30 ans maintenant, et j'interviens en marketing et en management.
Est-ce que vous trouvez que les étudiants auxquels vous faites face ont changé de regard par rapport à ces violences ?
Ah, tout à fait, oui. Ce qui paraissait être la norme avant, ce qui était intégré comme, comme le déroulé normal d'un service, ne l'est plus maintenant. Les comportements sont identifiés comme étant des comportements inappropriés.
Et une fois qu'on a identifié que ce ne sont pas des comportements normaux, est-ce que les élèves pour autant les dénoncent, quittent l'établissement ou pas ?
Ah, c'est très compliqué. C'est très très compliqué parce que l'étudiant ou l'élève a envie de se construire un CV. Et dans certains cas, quitter le stage, c'est partir avec, en mauvais terme, avec un chef qui peut être extrêmement valorisant. Donc, si ça se passe vraiment mal, de toute façon, le lycée prend la responsabilité de retirer le stagiaire. Mais quand il y a un tout petit problème, il y en a certains qui préfèrent rester parce que justement, ils veulent avoir la validation de 4 mois dans un établissement prestigieux. La parole ne se libère pas très 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 facilement.
Mais ça veut dire que le fait qu'on se fasse crier dessus, voire pousser ou bousculer, frapper ou violenter, c'est intégré ?
J'ai la sensation que c'est intégré pour certains, bien sûr. Ça fait partie du job. C'est un état de fait qui existe depuis toujours. La pression pour eux peut peut-être justifier que de temps en temps, un collaborateur ou un supérieur sorte de ses gonds. Donc c'est presque intégré physiquement, en fait, ça. C'est naturel dans une cuisine.
Pourquoi est-ce que ça prend autant de temps ? Pourquoi est-ce que c'est si long, finalement ?
C'est si long parce que je pense qu'en cuisine, il y aura toujours l'idée du coup de feu. Et l'idée du coup de feu peut faire sortir certaines personnes de leur gond. Moi, j'ai l'impression qu'il y a ça. Il y a une pression temporelle, il y a une pression économique. et qui quelquefois, même si vous souhaitez être toujours bienveillant, ben, qui quelquefois peut en faire sortir certains de leur gonds.
Vous enseignez le management. Est-ce qu'il faudrait qu'il y ait pour les chefs des formations, un petit peu comme des formations continues finalement, parce que n'est pas manager qui veut, c'est pas parce qu'on est un bon cuisinier qu'on est un bon manager.
Et pourquoi pas? Et je pense notamment à des modules sur la communication non violente, avec tout ce qu'on a à gagner en mettant en place des process de communication non violente, pourquoi pas? On a bien des modules de formation sur l'hygiène, pourquoi pas? C'est tout aussi important. Tout aussi important parce qu'il en va de la santé des équipes.
Pour remplacer le stress, les cris, les coups par de la communication non violente, il faut d'abord en comprendre les racines. Tout l'enjeu pour les chercheurs qui travaillent sur le sujet, c'est de distinguer le harcèlement ou la maltraitance des impératifs d'excellence et de précision liés au métier. C'est dans la capitale de la gastronomie, à Lyon, que nous retrouvons Faustine Calmel et Frédéric Quéroux en compagnie d'Elsa Laneri, maîtresse de conférences en psychologie du travail et en ergonomie au laboratoire GREPS à l'université Lyon 2. Elle s'est spécialisée dans l'étude de ce qu'on appelle les métiers passion, notamment dans le secteur de la restauration. Et elle tente de répondre à une question centrale: qu'est-ce qui fait qu'un individu, parce qu'il est passionné par son travail, accepte de subir des violences?
Interception.
On va être dans un lieu spécial, vous allez voir.
Sur France Inter.
Comment ça?
En fait, on va être dans les souterrains et c'est un ancien endroit où il y avait des prisonniers, tout ça.
Je sais pas si c'est très bien pour parler violence en cuisine. Ouais, c'est moins un, du coup.
C'est moins un. Je vous emmène moins un. Et vous allez voir, on capte pas en plus. Ce n'est pas du tout glauque. Bienvenue à l'université. Non, en plus, c'est sympa. Hein. Alors, c'est par là.
Est-ce que on constate aujourd'hui autant de violences morales et sexuelles que physiques, ou la violence physique dont on a eu des échos il y a déjà quelques années, c'est quelque chose qui est moins présent aujourd'hui?
On n'a pas de chiffres exacts qui répondent à ces questions-là. En tout cas, il y a toujours des difficultés. Et quand on intervient dans les écoles de formation, il y a toujours autant de violences, qu'elles soient sexistes, physiques, qui apparaissent. Donc je ne sais pas exactement vous donner des chiffres. Mais en tout cas, toutes les formes de violences sont encore bien présentes. Et on parle encore beaucoup d'harcèlement, hein, sexuel notamment, mais pas que. Et je dirais que ce qui est encore plus compliqué à mesurer, c'est tout ce qui est humiliation, en fait, qui fait que ça peut casser un individu, notamment quand ils ont 16 ans, mais à vie après dans les brigades, quoi.
Il y a une vraie tolérance vis-à-vis de ces violences qui est intégrée. Pourquoi et d'où vient le fait que ces violences, on les accepte quand on est dans le milieu?
Je pense qu'il y a plein de raisons différentes. Déjà parce que c'est un métier extrêmement pénible et que quand on tient, il y a un côté valorisant de se dire moi je tiens, donc si tu tiens pas c'est que toi t'es faible. Il y a un peu le culte un peu de la virilité. Il y a le fait aussi que en fonction d'où tu travailles, t'es prêt aussi à accepter certaines violences parce que ça te fait une très belle ligne dans ton CV et qu'après tu sais que t'as un nom dur et puis après tu pourras travailler un peu là où tu veux. Donc il y a aussi, je dirais, le collectif qui est hyper présent. Alors ça, c'est hyper contradictoire, c'est qu'à la fois il peut être hyper difficile, ce collectif, en te faisant des bizutages, etc. Mais à la fois, il est hyper soutenant aussi. Et en fait, c'est des personnes qui travaillent tellement qu'ils n'ont pas le temps d'investir d'autres lieux pour se faire des amis, pour avoir une vie affective. Et le jour où ça craque, ils se disent « Mais qu'est-ce que j'ai tout donné, en fait, à ce travail-là. J'ai donné tout mon temps, toute mon énergie. Et il me reste rien. J'ai envie de rien faire d'autre, en fait. »
Est-ce que ce collectif que vous évoquez, il explique aussi l'omerta, finalement, qui perdure sur ces questions-là de violence? Ça reste un tabou.
Ça reste un tabou. Je trouve qu'il y a pas mal de femmes très courageuses qui ont osé dire des choses. Mais je trouve que c'est plutôt les femmes qui ont ce courage-là, pour l'instant, de dire que c'est pas possible, en fait, qu'on n'a pas accepté ça. Je rajouterais aussi que c'est des élèves qui sont très jeunes, et pour beaucoup, c'est leur première situation professionnelle. Certains ont aussi été en échec scolaire. Ils savent pas ce qui est acceptable ou pas. Ils connaissent pas le milieu du travail. Et donc, il y a des choses aussi qui paraissent inaperçues parce que, une petite humiliation, une petite tape, etc. On se dit, ouais, mais c'est vrai, en même temps, j'ai pas été rapide, j'ai pas été assez bon. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de formation des restaurateurs sur ces questions-là. Donc, quelque part, on peut pas leur en vouloir dans la mesure où ils savent pas faire. Il n'y a pas de lieu de formation spécifique. Ils ont pas forcément le temps. Donc, je pense qu'il y a un gros travail à faire là-dessus. Il y a de plus en plus de restaurateurs qui se rendent compte du mal-être qu'ils ont procuré à d'autres et qui veulent changer leur pratique. Donc ça, c'est un peu le message que j'aimerais transmettre, c'est que rien n'est impossible et on peut encore agir même si on a été violent à un moment. Donc oui, les choses changent. C'est pas une question de génération, à mon avis, c'est aussi une question de réseau. On observe des réseaux de restaurateurs qui travaillent ensemble, qui pensent à leur activité et qui ont une vraie conscience que l'humain, bah, ça se manage avec de la communication, du respect, etc. Il y a beaucoup de personnes qui ont été éduquées en mode presse au maximum cette personne et ce qui va ressortir, ça va être le meilleur. Mais il faut passer par cette pression-là pour voir. Mais en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de ça.
Parmi ces restaurateurs qui mettent en avant l'humain et la bienveillance, il y a de nombreuses femmes, chefs, mais aussi quelques hommes comme Éric Guérin. Il dirige depuis 27 ans la Mare aux Oiseaux, établissement Une Étoile à Saint-Joachim en Loire-Atlantique, où nous arrivons pour le service du déjeuner.
Bonjour. Bonjour. Excusez-nous, c'est par là qu'on rentre ?
Exactement.
Ah, merci, avec les sapins, on n'était pas sûrs.
Bonjour.
Bonjour. On a rendez-vous avec Éric Guérin, on est pour la radio France Inter.
Moi c'est Éric Guérin, donc je suis chef et propriétaire de la Mare aux Oiseaux. La Mare aux Oiseaux, ça se situe en plein cœur des marais de la Brière, sur une petite île qui s'appelle l'île de Fédrin. Et on est dans un triangle La Baule, Guérande, Saint-Nazaire.
Bonjour.
Bonjour.
Ça va et vous?
Bah, très très bien, merci.
Bah, nous voilà dans la cuisine d'Éric Guérin. Il est 10h30 et on a déjà une dizaine de personnes en train de préparer le menu du déjeuner.
Bonjour, vous êtes prêts pour commencer? Alors, on a deux captans avec deux céleri, deux jacks de serre. On en a deux autres avec deux céleri, deux jacks, deux dorades de cochon. Ça va jusque-là?
Oui.
Et après, on a deux balades en brière avec deux pousse-pieds de volaille.
Vous pouvez me dire ce que vous êtes en train de faire?
Ici, c'est d'ici que part tout le service. En face, on a du coup les petits pains. Ils commencent par ça, donc c'est les petites portions qu'on mange juste en une bouchée, comme ça. Et moi, après, du coup, là, je suis responsable de faire tout ce qui va être les amuse-bouches. Donc, c'est la première chose que va manger le client après les petits pains. Et du coup, là, on est sur un amuse-bouche autour de l'oursin, de l'agrume et du chou. Donc là, je suis en train de disposer une base de gros sel pour pouvoir poser la coque de l'oursin, car on a réutilisé la coque de l'oursin en elle-même pour pouvoir dresser à l'intérieur. Donc, tout un travail de préparation de la coquille pour pouvoir après remettre toutes les petites préparations à l'intérieur. Ça, on retrouve vraiment le produit.
Vous avez l'air de faire ça de manière très calme et posée. On sent pas le rush encore.
Toujours, toujours. C'est encore le début, là. On n'est pas encore trop dans le rush. Pour l'instant, tout va bien. Mais ça va pas tarder à commencer très bientôt.
Une fois deux avec ciel sans huître.
À l'intérieur, c'est de la Saint-Jacques qu'on a pré-cuite, thermoplongeur, sous vide. Donc juste pour qu'elle soit juste nacrée. On l'a taillée en cubes et on a mélangé avec de la crème de marron, sel poivre. Et du coup, ensuite, on fait notre petite on en porte caisse.
Et c'est tout.
Moi, j'ai commencé à 15 ans et demi. Voilà. Effectivement, j'ai commencé à une autre époque. Des grosses brigades et puis une ambiance très, très dure. Moi, j'ai été formé comme ça, j'en suis pas mort. Hein. Ça m'a plutôt bien réussi même. Et puis un jour, je me suis installé en Brière, tout seul, chez moi. Et là, je me suis rendu compte très vite que de piquer des crises tout seul dans ma cuisine, ça m'amenait pas bien loin. Eh ben, je reproduisais ce que j'avais vécu, c'est-à-dire lancer les assiettes contre les murs, les casseroles sur les fourneaux, crier sur tout le monde. Alors tout le monde, quand on est quatre... Ça, c'est pas bon ménage. Et surtout, bon, petit à petit, l'équipe a quand même un petit peu grossi, mais je rentrais chez moi le soir, j'avais un peu honte, j'étais fatigué de m'être énervé. Et le lendemain matin, je n'osais pas revenir au boulot, où je revenais avec la boule au ventre en me disant, mince, qu'est-ce que j'ai fait hier soir? Donc, il fallait recommencer à crier encore plus fort pour montrer qu'on était là. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais je vais pas tenir, quoi. Et effectivement, ça fait mal au ventre, ça rend malade, et ça rend moche, quoi. Donc, j'ai fait tout le chemin inverse.
Comment vous l'avez fait, ce chemin? J'imagine que c'est quelque chose d'assez progressif. On ne sort pas comme ça tout de suite de ce schéma-là.
Alors, je suis arrivé assez rapidement à la réflexion que finalement, ces gens avec qui je travaillais, c'était plus que du travail, puisqu'on passait plus de temps ensemble que toutes les autres personnes que j'aimais, puisque je ne voyais plus ma famille, je ne voyais plus mes amis. Et le week-end, je me retrouvais même presque à sortir avec eux. Et ça a été la première phase. Je me suis longtemps aussi battu contre la violence en cuisine en récupérant des petits oiseaux blessés à droite à gauche. Et depuis 5 ans, et l'arrivée de Félix en salle, qui a amené plein de choses et notamment une vraie harmonie entre la salle et la cuisine. On a vraiment mis les bouchées doubles et axé les choses sur le bien-être au travail.
Il y a aussi plus de temps de repos, plus de temps pour réfléchir, se dégager un petit peu du quotidien ici.
Oui, alors avant aussi, pour moi, et par rapport à mes comptables aussi, il fallait travailler 7 jours sur 7, il fallait être toujours présent, il fallait être toujours ouvert, il fallait être toujours à fond. Et puis finalement, c'était compliqué, parce que moi, j'avais pas vraiment de jours de repos. J'en prenais un par-ci, par-là, que je volais. J'arrivais ici, j'étais toujours stressé, j'étais fatigué parce que j'avais pas réussi à me reposer. Et là aussi, je me suis aperçu, maintenant on ferme 2 jours et demi, ça permet vraiment de se reposer. Et là, on est plein pot pour faire une belle mise en place et attaquer la semaine.
Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, il y a encore une omerta autour de ces questions de violence en cuisine ?
Je dirais que depuis que la parole se libère, ça fait pas longtemps, hein, ça fait 2 ans, 3 ans. Depuis qu'on est au pied du mur, les choses évoluent. J'entends moins de cas graves. Il y a des chefs qui ont vraiment fait des efforts. J'ai pas mal de chefs qui viennent me voir aussi pour me demander des conseils. Donc je vois que ça bouge. Après, j'entends encore quelques petits décalages. Mais je pense que, et notamment au niveau des écoles hôtelières qui envoient les stagiaires, il y a pas mal de retours un peu négatifs. Les écoles hôtelières commencent à dire on placera plus les gens dans les maisons difficiles. Et effectivement, comme on a besoin de personnel et qu'on en a de moins en moins, il va falloir de toute façon que les gens qui ne suivaient pas cet exemple-là changent, parce qu'autrement, demain, ils pourront pas travailler.
Est-ce que c'est ça la clé, les problèmes de recrutement qui vont finir par faire changer les choses ? Est-ce que c'est finalement une chance à saisir, là ?
Je pense effectivement que c'est la chance à saisir, et je pense que cette chance-là, c'est pas nous qui allons la saisir, c'est les jeunes. Parce que les jeunes, entre eux, aujourd'hui, ils ont une conscience de tout ça. Et ils veulent plus aller travailler dans des maisons comme ça. Et surtout, le bouche à oreille est énorme. Ils savent où il faut aller ou pas aller. Et aujourd'hui, c'est eux qui ont la clé et c'est pas nous. Nous, il faut s'adapter. J'ai 50 employés quasiment, on fait une moyenne et j'ai jamais été autant épanoui et jamais pris autant de bonheur dans mon métier qu'aujourd'hui. Donc c'est faisable, on peut le faire et j'ai des équipes extraordinaires.
Vous avez reçu en septembre un label qui s'appelle le Marianne de la cuisine aussi. Donc c'est le signe d'une cuisine où on respecte les autres, où on se respecte. Est-ce que ce type d'initiative, un label, ça peut aussi aider à en finir avec ces violences ?
Quand j'ai vu que le label Marianne de la Cuisine allait exister, effectivement, je me suis beaucoup investi avec eux. Et je pense que demain, ça peut être une clé. En tout cas, pour apporter des solutions à des gens qui ont finalement été formés à être durs, à être difficiles et qui n'ont pas les clés pour essayer d'être plus doux. Et moi, j'ai vu beaucoup de chefs qui même en ont pleuré, de dire « moi, je suis horrible, je suis comme ça, mais bon, je ne sais pas faire autrement, je rentre dans la cuisine ». Voilà, je pète les plombs et il faut que je sois sur les nerfs, sinon j'y arrive pas, quoi. Et je pense que effectivement, ça peut être une solution. Alors après, de mon point de vue, ça va être très compliqué parce qu'il y a vraiment un passif dur, un métier compliqué à passer, une vraie toile d'araignée. Il y a beaucoup de familles dans la restauration et ça va être difficile de rentrer par la petite porte dans tous ces endroits-là.
Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je me présente, moi c'est Lila. C'est moi qui vais principalement vous accompagner pour ce midi. Ici pour commencer, on va vous proposer une spécialité de la Bruyère, c'est de la langouille. C'est de la langue de porc qui est fumée.
D'accord.
Est-ce que vous souhaitez prendre un apéritif pour commencer ?
Oui, oui, oui.
Alors on va avoir le cocktail du moment vous proposer à base de liqueur Petit Prince.
Au-delà des changements de comportement, c'est aussi sur le modèle traditionnel du travail en cuisine que les professionnels du secteur commencent à s'interroger. Avec des expérimentations, moins de hiérarchie, plus de partage des responsabilités et la disparition totale des brigades. C'est ce que tente de faire à Lyon l'équipe qui gère le court-circuit, un bar-restaurant qui fonctionne sur le principe d'une coopérative autogérée.
Bonjour.
Bienvenue. Est-ce que vous voulez un café ?
C'est à l'intérieur de ce petit établissement du quartier de la Guillotière que nous emmènent Faustine Calmel et Frédéric Guéroux.
Et puis alors ici, au court-circuit, le restaurant lyonnais où nous sommes, eh ben, il est affiché, la manière dont on fonctionne, c'est l'autogestion coopérative. Le court-circuit est une SCOP, 10 salariés en CDI, dont 9 associés. Toutes les décisions prises par tous et toutes les salariés, c'est écrit là et tout en dessous, la gestion de l'entreprise est partagée entre tous les salariés. Tout le monde est serveur, serveuse, cuistot, cuistote, gestionnaire. Voilà. Ça, c'est la manière dont on fonctionne
ici pour l'ensemble des salariés, dont Maxime, Diane et Sarah. Et il y a quoi dans votre casserole, là ?
Il y a une farce au riz, aux champignons shiitake et pleurotes, choux. C'est pour faire des choux farcis avec une sauce au vin rouge, choux farcis végétarien. Ça, on va faire la...
Alors, je m'appelle Marco Della Corte. Aujourd'hui, je travaille à Grenade, qui est une société coopérative d'intérêt collectif qui regroupe plusieurs scopes qui sont autogérés.
Ça veut dire que dans la restauration, et malgré tout ce qu'on a vu avant, on peut fonctionner sur un modèle différent de la brigade, le chef, le commis, quelque chose de très hiérarchique.
Oui, on apprend à la fois en organisation du travail, mais on apprend aussi beaucoup en cuisine. Moi, quand j'ai travaillé en tant que cuisinier dans une équipe de 6 cuisiniers, du coup, il n'y avait pas d'hierarchie, on était 6. Et on faisait les menus à deux à chaque fois. On s'apprenait énormément, en fait. Il n'y avait pas de rapport de domination qui s'installait. J'en retire cette dimension très apprenante, en fait, de la coopération et de la non-hiérarchie, quoi.
Et cette absence de hiérarchie ou cette hiérarchie tournante, est-ce qu'elle permet qu'il y ait moins de violence ?
Elle permet que la violence ne soit pas acceptée. C'est-à-dire qu'elle n'est pas légitimée par « c'est moi le chef et donc tu fais ce que je dis ». Donc c'est-à-dire que s'il y a, on est tous des humains, il peut y avoir des montées en température, des coups de chaud, il peut y avoir des erreurs de communication. Il y en a tout le temps dans toutes les cuisines. Mais la question, c'est de pouvoir se dire que c'était pas OK après et trouver des stratégies pour dire bon, qu'est-ce qui dans notre organisation a fait qu'on s'est stressé, et donc d'y réfléchir après, et comment on communique autrement, comment on anticipe les problèmes, comment éventuellement ben ça révèle que tu n'es pas bien organisé dans ton travail. Justement, la violence est souvent une compensation de l'organisation, quoi. Et ça, quand on le comprend que c'est pas juste du coup je vais faire compenser mon manque d'organisation personnelle par un subordonné ou une subordonnée qui devra faire plus de travail. C'est juste d'apprendre que la violence n'est pas OK, en fait, et de trouver d'autres solutions.
Moi, je suis Maxime, j'ai 28 ans. Je suis cuisinier depuis que j'ai 14 ans.
Et comment est-ce que vous fonctionnez ici, au court-circuit ? C'est quoi l'organisation ?
Dans la journée, en fait, la journée va se décomposer comme ça. Les cuisiniers qui vont travailler le matin ne vont pas travailler le soir. Donc, il n'y a pas d'horaire en coupé. C'est du travail du lundi au vendredi uniquement. Ils vont quand même passer sur la soirée une fois dans la semaine.
Comment est-ce que vous êtes arrivé ici, donc au court-circuit, qui est une entreprise coopérative autogérée ?
En fait, j'ai fait 3 types de restaurants différents. Donc, du coup, j'ai commencé à travailler dans un restaurant campagnard, ensuite dans un restaurant routier, puis dans un gastronomique. Du fait de toute cette expérience, j'ai décidé d'arrêter la cuisine, de changer de métier suite... aux violences que j'avais subies, suite au cadre qui est quand même très, très contraignant.
Quand vous dites les violences que vous avez subies, est-ce que vous voulez bien détailler ce qui s'est passé dans ces établissements ?
Ça a été de la violence psychologique au début, de l'intimidation du chef, un chef m'a tapé, ça a été très compliqué de m'en mettre de ça, mais j'ai décidé de continuer de me battre, continuer ma passion de la cuisine. Du coup, je suis parti dans un restaurant gastronomique et là, ça a été non-respect de l'humain, en fait. Et du coup, là, c'était le trop. Du coup, j'ai décidé d'arrêter la cuisine, de partir dans une autre branche. J'ai fait de la vente, je suis parti en voyage. Là, je me suis un peu ouvert sur le monde. Et en revenant, en fait, j'avais envie d'un emploi plus alternatif, plus humain, plus collaboratif et plus droit, en fait.
Qu'est-ce que vous avez trouvé au court-circuit ? Comment ça se passait quand vous êtes arrivé ?
J'ai trouvé beaucoup d'autonomie, du respect de l'humain et puis des copains aussi, parce que ça joue beaucoup. C'est un travail beaucoup plus droit, qui respecte tout le monde et où il n'y a pas de tension non gérée. Ici, justement, on a plein d'outils qui permettent de... dès que quelque chose ne va pas, on peut en parler. On peut en parler au collectif, on peut en parler à une personne avec qui on va être plus en confiance, si c'est un problème avec le collectif, par exemple, et tout va se régler par la parole.
Si vous n'aviez pas trouvé ce schéma-là, vous pensez que vous feriez encore de la cuisine ?
Clairement, non. J'ai arrêté la cuisine justement parce qu'il y avait cette violence-là. Si j'étais retombé dessus, j'aurais pas accepté du tout. Je suis plus du tout apte à dire oui, en fait. Je l'ai trop subi pour aujourd'hui retourner dans le même schéma. J'ai justement envie que les choses changent et montrer que c'est possible de juste être... d'être gentil, d'être humain et de penser à l'autre, et ben que ça fonctionne, que le restaurant il tourne et que derrière ben, ça plaît aussi au client. Le client il vient, il voit que l'équipe elle est bien, elle est souriante, naturellement. Clairement, moi je veux pas retourner dans un schéma où le client il se fait engueuler quand il demande quelque chose en plus à rajouter dans son plat ou qu'il arrive et qu'il est mal accueilli. Enfin, moi c'est la première fois dans ma vie où je me sens bien au travail, je suis heureux de venir travailler tous les jours, j'ai aucune boule au ventre, j'ai pas de stress, je suis apaisé en fait. Je suis vraiment heureux de venir travailler et c'est la première fois que je peux le dire. Et ça c'est vraiment quelque chose d'essentiel.
Voilà. Toi que t'as fait une bonne action, t'as donné ton cancer à quelqu'un. C'est pas toi que je voulais dire, c'est pas lui
qui s'appelle. Sévices compris, comment se débarrasser des violences en cuisine ? Un reportage de Faustine Calmel, prise de son Frédéric Quérou et Gilles Gallinaro, réalisation Jérôme Chélius, assisté de Martine Messonnier et Gabriel Audibert, mixage Valérie Lavalard. Cet épisode est à réécouter dès maintenant sur le site de France Inter.